Amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonjour, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Nous avons l'honneur et la joie d'avoir dans nos studios de la rue d'Assali ce jour Yves Charnay. Yves Charnay, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir répondu à notre demande pour venir présenter ici dans ce studio, dans cette radio Occitanie, dont vous êtes maintenant familier.
Toujours un plaisir de venir chez vous.
Merci. Le dernier livre paru aux éditions Tarabuste, Chute. Alors, il s'agit d'un livre qui, on le voit tout de suite, est un livre volumineux, hein, puisqu'il y a combien ? Il y a plus de près de 300 pages. 283 pages.
Serré.
Voilà. Serré. Serré. Voilà. Et ce livre s'inscrit donc dans votre parcours d'écrivain poète depuis les années 90, alors jalonné bien sûr des publications dont nous avons rendu compte hein, ici au fur et à mesure de ces parutions. Ces publications, je le dis de mémoire, ça commence d'abord par Prose du Fils. Prose du Fils qui a fait l'objet également d'éditions de poche, hein, d'un livre qui a eu un succès, comme on dit maintenant, un succès de librairie qui est absolument incontestable. Et puis, il y a eu Rien, la vie, c'était aux éditions La Table Ronde. Voilà. Cœur furieux, Mon amour, La Table Ronde, toujours. Puis, de nouveau, vous avez publié Prose du Fils, c'est une réédition, dans la collection La Petite Vermillon de La Table Ronde.
Hein, voilà, c'est une, tout ça dans
excellente collection.
Les années Tillinac, c'est voilà. Tillinac qui a créé cette collection.
Une préface qui n'était pas, évidemment, lors de l'édition originale, qui est la préface de Denis Podalydès.
Voilà, d'un autre Denis. Voilà. Il y avait deux Denis à ce moment-là. Oui. Denis Tillinac à la direction de la maison, qui est mon éditeur et qui m'a inventé comme écrivain. J'aime à le rappeler particulièrement, puisque peut-être je vous parlais, c'était très étrange coïncidence, bah, faisons-le maintenant. Quand je suis revenu de Saint-Benoît-du-Sault, accueilli magnifiquement par mon nouvel éditeur, Jamel Mescache, c'est Tarabuste, qui est évidemment un bonheur et un honneur d'être dans cette maison, je reviens avec le livre, je reviens et par le train, parce que je ne conduis pas, et je suis assez addict de Facebook, des mails, et comme un idiot, je n'attends même pas d'être chez moi, j'ouvre mon ordinateur dans la gare, Matabio, en pleine période de Covid, ce qu'il ne faut pas faire. Et je suis étonné de voir qu'il y a beaucoup de messages, je suis étonné. Et il y en a un de ma fille, alors je commence à le regarder, qui m'apprend que Denis Tillinac était mort dans la nuit même. Et c'est les collisions de la vie, ça. Voilà, puisqu'on parle de l'édition, c'est une espèce de hasard objectif, celui-là étant bien noir, même s'il est mort dans une foire du vin et du livre, ce qui allait très bien à ce rablaisien truculent.
Personnage.
Voilà. Hein, mais quand même.
Oui. Ce que vous voilà. Dites me fait souvenir d'un événement personnel aussi. J'étais chez Bruno Durocher en 82, et Bruno Durocher m'a laissé regarder la caravane de... Comment s'appelait-il un poète de l'école de Rochefort. Pardon, j'ai un trou de mémoire. Et dans l'avion, effectivement, j'ai lu que ce poète-là venait de mourir aussi. Mmh. Coïncidence, ça me fait penser à ça.
Et là, d'un éditeur à l'autre, c'était vraiment incroyable. Et oui. Tout que je n'avais pas évoqué longuement Denis Tillinac pendant ces deux jours chez Tarabuste avec Jamel. Enfin, c'est la vie, comme est la vie.
Alors, je continue la série des publications. Il y a eu ton Petite Chambre. À la Table Ronde en 2005, on peut en dire un mot, un petit mot, parce que
je crois que c'est le livre par lequel on s'est rencontrés ici. C'est un livre qui était l'initiative de Philippe Berthaud qui m'avait proposé une résidence qui était sur le paysage au Kéla, chez Maurice de Guérin. Et on avait quatre saisons à passer, les samedis, dimanches. Je salue Philippe à cette occasion, et qui était vraiment un très bon compagnon pendant toutes ces résidences. Qui était sur ses terres natales, en plus, dans son Tarn. Et moi, j'ai basculé, j'ai fait changer la commande, puisqu'il y avait notamment une très belle bibliothèque avec tous les écrits de, sur Guérin, hein, sur les deux. Et donc, comme c'est l'inventeur du, un des inventeurs du journal intime et de la, et du poème en prose avec le Centaure, j'ai basculé évidemment dans l'intime, et j'ai été chercher un paysage de l'intime ou une intimité du paysage chez Maurice de Guérin dans ce petit livre qu'il aimait beaucoup, Denis, Petite Chambre.
Maurice de Guérin, donc, Tarn, hein, résidence.
Il fallait Tillinac, d'ailleurs, je signale, voilà, pour publier un livre de notes sur Maurice de Guérin, comme si c'était un roman, avec les mêmes moyens, je veux dire. Salut, l'ami.
Puis, il y a eu la corrida avec lettre à Bautista, toujours à la table ronde, puis miroir de Julien, elle.
Aux éditions du Diable Vauvert, de Marion Mazurek, voilà, pour laquelle je dois finir de réécrire, oui. Oui. Depuis un temps interminable maintenant, si elle m'entend, elle sait à quel point je suis coupable de désœuvrement. C'est Lettre à Bautista, qui devrait s'appeler Nos années Bautista, dans une version que je ne désire pas de finir.
Le divorce, c'était chez Belin.
Oui. Qui correspond à un divorce avec la table ronde à ce moment-là, avec la nouvelle table ronde. Oui.
Voilà. Et puis La tristesse durera toujours, juste avant.
Oui, c'est juste avant.
Le dernier roman chez la table ronde. Hein, on en a parlé ici aussi, le divorce également.
Absolument.
Quatre boules de jazz, Nougasson. Tous ces livres sont commentés et sont accessibles sur notre site, lespoètes.site. Et puis dans Son regard aux lèvres rouges, ça c'était l'avant-dernier livre, donc, avec une postface de Jean Delabroix, aux éditions Le Bateau Ivre, c'était en 2017. Alors, Yves Charnay, vous revenez avec ce gros livre, Tarabuste, dans lequel il y a... Alors pour moi, je pense que tous ces livres sont en fait une continuation, c'est-à-dire... on ne met jamais fin à un livre quand on vous lit. Il se continue dans le suivant. Hein, parce qu'on va retrouver dans Chute tout ce qui avait été esquissé, abordé, commenté dans les livres précédents. Il y a une espèce de continuum d'un livre à l'autre. Et celui-ci peut-être... ferait un peu le rassemblement de tous les autres. Voilà. Et je crois que je ne sais plus c'est qui a dit, même je crois que vous le citez aussi, on écrit toujours, on écrit qu'un livre, en définitive, on écrit toujours le même livre sous des formes différentes. Et en ce qui vous concerne, je crois que... alors, ça peut être un inconvénient, c'est que pour lire... avec autant de régal que moi, par exemple, ce livre, il faut peut-être avoir lu les précédents aussi. Voilà. Parce que, d'abord, on retrouve les personnages familiers, on comprend tout. En plus de ça, il y a quand même beaucoup d'allusions littéraires, d'allusions aux arts, etc. Donc, il faut connaître ça aussi. Et quand on a tous ces codes, à la fois avoir lu les charnets précédents, et puis connaître un peu d'abord la poésie contemporaine, l'art, en particulier les impressionnistes, etc., évidemment, il y a là, on s'en sent un peu privilégié, et on est dans ce livre un peu comme un poisson dans l'eau. Hein, parce qu'on sait de quel personnage il s'agit, on sait... de quoi on parle. Alors, ce livre s'appelle Chute avec pluriel. Je pense à la chute de Camus, hein, donc
bien sûr,
l'allusion. Hein. Donc c'est Chute avec pluriel. Et puis on va retrouver ce que l'on avait lu dans les précédents romans. C'est-à-dire une, je dirais, une épopée, le terme semble bon, une épopée de l'abandon.
Voilà. C'est votre texture, voilà. Je sais. Oui.
Une épopée de l'abandon, avec un style, alors c'est le style qui va faire de l'ensemble de ce livre, comme des autres, parce que... vous disiez qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace entre... Mais Si, quand même, il y a une séparation, disons, on passe de long paragraphe en long paragraphe, oui. Voilà. Et moi, je lis ces longs paragraphes comme, qui peuvent être plus brefs d'ailleurs, hein, comme de véritables et d'authentiques et de merveilleux poèmes. Voilà. Pour moi, donc, Yves Charlin, c'est avant tout cette prose, c'est avant tout une prose poétique, et l'autofiction poétique qui a trouvé là son auteur. Je pense que c'est très difficile de faire ça, très difficile, et que vous réunissez peut-être toutes les conditions. C'est-à-dire, la première condition, c'est l'expérience de la vie, une expérience douloureuse dont on va parler. C'est la première condition. C'est la condition certainement sine qua non, mais ne suffit pas. Il y en a d'autres. La deuxième condition, c'est bien entendu d'avoir la capacité du style, d'avoir eu l'invention aussi du style. Voilà. Et puis la troisième, c'est de pouvoir meubler tout ça par cette prodigieuse personnalité qui est la vôtre, c'est-à-dire une personnalité culturelle et qui est remplie. Voilà. Et tout ça, ça donne donc tous ces paragraphes d'Yves Charnay dans La Chute. Alors, cette chute, vous allez nous en parler. Il y a des expressions qui reviennent tout le temps dans ce, par exemple, Monsieur Lex, L-E-X, en majuscule. Hein. Il y a le recours aux majuscules aussi dans tout ce livre qui fait un effet. C'est sûr que les majuscules, c'est quelque chose qui agresse, qui saute aux yeux. C'est mieux que souligner, c'est-à-dire que hop, ça frappe. Le lecteur est vraiment, ça surgit, ça jaillit, et hop, ça y est, Monsieur Lex, maire. Voilà, des mots comme ça qui sont et qui permettent d'avoir une lecture très rythmée. En même temps, comme ça revient souvent, il y a une espèce de cadence comme ça qui fait que cette prose est une prose aussi, moi, que je crois très, très sonore, justement, par ses effets de style, le style pouvant se servir effectivement de la graphie aussi. Alors, Monsieur Lex. C'est quoi, Monsieur Lex? Et vous dites un raté de première classe.
Ce qui est une formule qu'un journaliste avait attribuée à Manet.
Il y a Pierrotin Grenier.
Ce qui est peut-être de l'orgueil inversé de ma part. Un raté de, Monsieur Manet est un raté de première classe.
Oui, oui, voilà. Donc voilà, bon, il faut.
Et Pierrotin, cher Pierrotin Grenier, toute une vie bien ratée, bien sûr.
Qui était, alors. Quand on lit toute une vie piratée, moi je pensais immédiatement à ça, la même chose, c'est-à-dire comment quelqu'un comme lui et comme Yves Charnay peut avoir une fraction de seconde.
Ça a été avec Pirotte dans mes années de formation comme écrivain, c'est-à-dire quand j'ai compris que j'allais publier des livres, je dirais que c'est ça un écrivain. On écrit, j'ai toujours écrit, puis un jour vient qu'on publie dans des revues d'abord, puis dans des livres, puis des livres, et qu'on sait qu'on perd l'innocence d'écrire. L'innocence première d'écrire, celle qui va, je dirais, dans mon cas, de 6-7 ans, là, des poètes de 7 ans, jusqu'à la trentaine, c'est-à-dire quand on sait que ce qu'on écrit va être dans un livre si on arrive à le faire. Voilà. Donc, je définirais l'écrivain, même l'écrivain de soi, comme ça, c'est celui qui fait des livres avec ce qu'il écrit. Voilà. Je ne saurais plus écrire sans penser qu'il y a un livre. C'est aussi une des conditions pour parler comme vous. Alors j'ai oublié pourquoi je suis déjà allé là. Vous vouliez savoir qui était Monsieur Lex.
Monsieur Lex, ça vient également de. Alors, la première blessure, je ne sais pas si on va l'aborder maintenant, mais je voudrais peut-être le réserver pour parler de la dernière blessure, qui est le refus du manuscrit par un éditeur.
Oui, mais c'est qui est d'ailleurs date la naissance de Monsieur Lex, c'est-à-dire que.
Oui, voilà.
C'est une des choses de ce livre. Quand on devient Lex. Alors, Monsieur Lex. Ah oui, alors je voulais juste dire. Non, pardon. Je reviens un instant à ce qu'on disait. Dans ma formation d'écrivain, voilà. Donc, quand j'étais en formation d'écrivain, j'ai eu la chance, c'était une des choses que c'était là, qu'il a amené Pirotte à la table ronde. Donc j'ai vu de mes yeux Jean-Claude Pirotte, comme j'avais vu de mes yeux autrement Claude Nougaro. Donc il y a comme cette immense figure lyrique que vous admirez et qui vous marque. Et Jean-Claude Pirotte a été essentiel pour moi. Y compris que c'est lui qui me fait comprendre, enfin, un livre qui n'est pas son plus connu, qui s'appelle Il est minuit depuis toujours, et un autre qui est Plis perdu, c'est un livre entièrement de lettres adressées, m'a vraiment fait comprendre que mon premier livre, aujourd'hui, c'était pas un hasard, c'est-à-dire que c'était bien ça que je devais faire. Pour moi, c'était très très illégitime d'écrire sur soi, donc d'être l'écrivain que je devais être, c'était très illégitime, c'était entaché de... La bâtardise n'en finit pas, et un funambule en cavale comme Pirotte, espèce de Verlaine des années 90, comme ça, qui aurait survécu à Rimbaud, me montrait la voie, et que c'était possible, et que c'était avec son personnage et son être profond qu'on écrivait. Et au même moment, alors je l'ai croisé que deux ou trois fois, bon, c'était bien entendu, mais je n'ai pas eu la chance d'être proche que j'étais avec Jean-Claude. Voilà, Pierre Autin-Grenier aussi, évidemment, avec un titre comme celui-là, Toute une vie bien ratée, où c'est en douillette, où on est comme une douillette qui attache par le fond, toujours pas remis. Pareil, c'est l'allégorie de l'existence. Voilà, on était des passeurs, je veux dire. Hein, vraiment des passeurs vers ce qu'on doit faire, qui est évidemment plus singulier, qui est singulier, qui est son affaire à soi. Mais il faut qu'il y ait des êtres qui incarnent, quand on devient écrivain, qui incarnent la possibilité de ce que vous faites. Voilà. Je suis content que vous citiez aussi Pierre Autin-Grenier, ben ça me rappelle ça. Alors, monsieur Lex, donc ces histoires-là que je vous raconte, c'est du temps de ma petite gloire, comme vous l'avez dit, Proche du Fils, succès librairie, je ne sais pas, mais en tout cas, un vrai écho symbolique, comme on dit, la Une du Monde des Livres par Patrick Kechichian à l'époque, c'était très important. Le soutien, je dois le dire, enthousiaste et amical d'Anna Weinstein, bon, tout ça me terrifiait d'être au micro d'Anna Weinstein, je me sentais totalement, je ne voyais pas ce que je faisais là, c'était des endroits où Pascal Quignard venait parler, il n'y avait rien à y faire. Mais enfin bon, ils te disent que c'est bien, tu fais avec. Donc il y a eu une petite gloire comme ça. Et puis l'amitié de Denis, et puis la trentaine, et puis voilà, je faisais ma thèse, enfin bon, on parlait même un petit peu de moi à Paris, enfin bref. Je voyais bien que ce n'était pas fait pour moi, mais enfin, voilà. Et puis un jour, bien des années après, les changements de patron sont redoutables, donc j'avais l'âge d'être un cadre qu'on licencie. 50 ans, on ne s'en remet pas dans le capitalisme. Comme on sait, bon, le patron change, ce vieil patron n'est pas la question, et puis ben, c'est, voilà, plus rien n'est pareil. Plus rien n'est pareil, et puis tu finis par comprendre ce que tu n'as pas voulu comprendre, qu'on t'indique avec insistance la sortie. je suis assez bête stratégiquement, tout le prouve, mais pas au troisième manuscrit refusé, j'ai compris que c'était la sortie. Alors j'ai fait une chose absolument idiote, comme j'ai dit, j'ai claqué très fort une porte qu'on avait déjà fermée, ce qui est deux fois inutile. Donc j'ai fait une de mes grandes colères historiques, voilà. Et j'ai dit, je m'en vais, alors que j'étais déjà dehors. Bon, bref. Donc c'est ça qu'on et qu'est-ce qu'on fait après? C'est ça, voilà, quand on devient l'ex de sa propre vie, l'ex de sa propre légende, l'ex, après le divorce, on est l'ex, quand on commence à avoir des ex, enfin voilà. Et puis on est l'ex de sa propre histoire. Et donc ça m'est venu que ce L'EX allait devenir un personnage, monsieur l'ex, et qui est calé sur la fascination que j'avais à ce moment-là, enfin que j'ai toujours, mais très grande fascination. Je trouve que c'est ça que cet acteur produit pour Alain Delon. Et donc c'est calé sur Monsieur Klein pour moi. Hein. Monsieur Lex est calé sur Monsieur Klein, puisque vous savez, le livre commence par le fait que tu ne t'appelles pas Alain comme Delon, hein. Je crois que c'est ça la première phrase. Oui. Je suis très fier de la première phrase, hein. Je vais vous la dire. Je vérifie que c'est quand même ça. C'est ça, tu ne t'appelais pas Alain comme Delon, tu t'appelais Yves comme Montand. Hein. Voilà, tu ne t'appelais pas Alain comme Delon. Je ne sais pas quoi ça me plaisait, c'était une phrase de Hussard à la Blondin, enfin j'aime cette phrase. Et ce livre donc commence. Quand je vois les adieux de Delon pour son truc d'honneur là, qu'on lui donne, puisqu'on lui a rien donné de son vivant à Cannes, n'est-ce pas? Même pas pour Monsieur Klein, je rappelle. Et oui, il a cette phrase, il dit « Je suis d'outre-tombe ». Bah, ça consonnait tellement avec ce que je vivais depuis des années. Je suis un minuscule Alain Delon. Enfin, voilà. Donc j'ai assumé par le ridicule d'être Monsieur Lex, et ça m'a rappelé tous mes doubles quand j'étais petit, dont Roger Carnet, etc., qui était déjà calé sur Alain Delon, puisque c'était dans le clan des Siciliens. Enfin, voilà, si on s'intéresse au livre, on voit, vous vous appelez, machin. Voilà. Et voilà, donc... être l'ex de soi-même, avec ce jeu de mots, évidemment, que c'est la loi. Hein, ce qui pour un bâtard qui décidément refusera la loi, ne veut pas rentrer dans la loi, j'en sais vraiment quelque chose aujourd'hui. La loi, c'est droit d'os, vous voyez, je vois bien que la loi n'est pas faite pour moi, ou moi pas fait pour la loi. Ben voilà, je suis l'ex de... je suis l'ex, mais je ne suis pas la loi. Voilà.
Je voudrais peut-être, pour donner le ton, est-ce que je peux vous demander de lire la page 13 ?
Oui, je vais la lire, mais pour rendre audible à votre auditeur, aux auditeurs, simplement, dans la Corée sicilienne, c'est le moment où, Delon est dans les suspects, on lui dit « Vous vous appelez Roger Sarté ». Avec une voix que j'entendrai toute ma vie, vous vous appelez Roger Sarté, on voit le visage de Delon, puis les fonds Sabio qui n'est pas très favorable. Et donc ça m'appelait quand j'étais petit, puis Sarté c'était pas loin, hein, le Charnay. Donc j'avais créé un personnage qui s'appelait, vous vous appelez Roger Carnet. Hein. Voilà. Et qui devient des années après, monsieur Lex. Alors la page 13, je vous écoute. Voilà. Comme elle est, je la lis.
Voilà. Oui, là, jusqu'à légendaire, là.
D'accord. Voilà. Un raté de première classe. Le refus du dernier manuscrit fut donc le coup de grâce, le troisième en 3 ans. C'est un peu le certificat de naissance de Monsieur Lex, ce coup de fil fatal de ton ex-éditrice. Tu n'as pas su garder pour toi cette ulcérante blessure, cette cassure avec Judith Néron. Tu t'es cabré comme un imbécile. Tu t'es répandu comme un cocu de comédie sur ses misères. Tu l'as crié sur toutes les gouttières, ton cou coupé. Tout le monde a trouvé que tu en faisais trop, comme d'habitude. Il n'y a rien de plus vain que de la claironner à la cantonade. Ça plainte. Personne n'a compris que tu perdais ta dernière amarre, ton dernier ancrage, que c'était tout simplement trop, trop pour toi. Tu te retrouvais dehors, isolé, sans boussole. Cette détresse en même temps, c'était complètement toi. Ta part la plus intime, la plus obscure. Elles te sont paradoxalement de plus en plus insupportables. Les répétitions du premier abandon. C'est comme dans la chanson de Johnny, les coups. Ça fait mal. Oh oui. Mais ils n'apprennent même pas à vivre. Oh non. Ça n'a plus sens de faire semblant de marcher encore. Comme ces canards égorgés dans les fermes de ta mémoire saccagée, de vieilles femmes en noir racontaient ces légendes saccadées. Des poulets, des lapins, toute une ménagerie poisseuse y passée. La poigne et le couteau, elles datent de ce temps légendaire. Ta mère, sous les couvertures, dans son lit de gisante, à Nevers. Je m'arrête là.
Alors, il n'y a rien de plus vain que de claironner à la cantonade.
Mais ce que je vous racontais.
Dit, voilà, que c'était tout simplement trop. Alors, on va revenir là, à partir de ça, trop. Donc, ça s'ajoute à quoi ? Alors, la première grande blessure est, est celle qui va, en définitive, entraîner toutes les autres, puisque chaque fois, ce sera une répétition de cette... cette blessure, de cette sensation terrible de gouffre de la première blessure, c'est bien entendu l'abandon, la non-reconnaissance du père.
L'abandon de naissance, l'abandon à la naissance. En fait, le fait que la naissance ait provoqué l'abandon, c'est même pas mon sens, c'est l'annonce de ma conception, l'annonce, même pas de ma naissance, l'annonce que un fœtus qui n'était même pas moi existait a fait fuir le géniteur, comme je l'appelle. Voilà. Ça c'est certain, et en plus, vous m'avez, c'est un de ceux qui m'a aidé à le comprendre, en plus de l'analyse, bien sûr, c'est parce que vous m'avez dit ça très tôt, en lisant mes livres, très très tôt. C'était l'abandon, alors des fois je ne savais pas. Et c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire que c'est ce qui se rejoue, alors dans les abandons amoureux, et ce qui se rejoue, j'ai horreur d'abandonner, donc dans ce cas-là, on est abandonné si on n'abandonne pas, et c'est ce qui s'est rejoué vraiment, au-delà de toute mesure, dans l'abandon éditorial de ce qu'était une maison. C'est-à-dire que pour moi, la table ronde Tillac, c'était une maison, et lui vivait ça comme une maison. C'est aussi un homme de droite qui avait le sens des maisons de famille. J'appartiens à toute autre histoire, très à gauche et sans maison et sans famille, mais on s'aimait beaucoup quand même. Et il m'a entraîné dans cet imaginaire-là de la maison. Et vraiment, c'était horrible d'être chassé. Voilà. J'en ai pas de maison, je n'en aurais pas, mais c'en était une. Voilà. Et on dit une maison éditoriale. Il voulait aussi, il a eu cette utopie qui n'a pas fonctionné, mais quand même, à un moment, on a un peu vécu tout ça. Une espèce de communauté, il y avait Pirotte, il y avait Richard Millet, qui est loin d'être, hélas, voilà, ce qui s'est passé, devenu ce qu'il est devenu, mais Olivier Frébourg, enfin, c'était une maison. Et on mangeait ensemble, on se dînait ensemble, c'était mousquetaire, enfin voilà. C'était un bout de l'imaginaire de Tignac, puis j'aimais aller dans sa maison de famille l'été en Corrèze. Voilà. Donc je suis passé, comme il aimait bien sa statue, je m'imagine toujours le fils préféré de la maison, hein. J'aimais croire ça. Je crois qu'on s'aimait vraiment beaucoup. En tout cas, je l'aimais beaucoup. Et une chose horrible, quoi, qui est d'être à nouveau le bâtard, c'est pas à toi, c'est plus toi. Voilà. Donc c'est un vrai. Le seul fait que je le redise comme ça. Alors maintenant, la distance est prise. Je pourrais d'ailleurs y compris reparler à peu près. Ça va. Mais sur le moment, c'est ulcérant au sens propre. C'est l'ulcération, pas seulement de l'orgueil, mais de cet enfant qui ne sait pas faire, hein, parce que c'était trop, voilà, vous avez raison, le début c'était trop, ça a été trop tout de suite. Alors, ensuite on construit des parapets, des digues, du symbole, puis de temps en temps c'est encore trop, et je vois bien la période historique dans laquelle on est entré, qui en plus, et là je le crains, en plus de mes petites histoires, est un basculement de civilisation terrifiant, mais enfin c'est trop pour moi, la manière dont on veut le régler, c'est trop pour moi, quoi, c'est ce que les gens ne comprennent pas, quoi, je ne veux pas rentrer là-dedans, voilà. Il y a trop de lois. Il y a de la loi du matin au soir, c'est la propagande de la loi unique. C'est just impossible. I prefer not to.
Oui,
c'est vrai. Oui, c'est aussi radical.
Oui, la phrase de Thatcher, il n'y a pas d'autre solution.
Oui, c'est ça, il n'y a pas d'autre solution. On les connaît. Épargnez-moi de mettre un objectif à cette solution. Oui. Eh bien, justement, si, on va tout faire pour qu'il y en ait une autre. Mais voilà. Et c'est pour ça que je vois les gens ne comprennent pas, y compris, je crois que c'est des outrances et tout. Non, c'est des vertiges. C'était chute ou vertigo, le titre. Hein. Il y a du vertige. Voilà, j'ai le vertige. Et la situation actuelle me donne le vertige, vraiment. Je pense qu'elle est vertigineuse, c'est une autre histoire. Mais elle me donne le vertige.
Oui. C'est abordé un peu dans le
livre. Oui, c'est, alors, ce livre, ce livre s'appelle Chute, oui. Tout s'effondre.
C'est abordé, oui.
On voit l'effondrement du monde.
D'en parler.
Il y a l'effondrement du monde déjà, mais alors, comme aurait dit ma mère, on n'en a pas chagrin depuis. Oui. C'est sa phrase, on n'en a pas chagrin.
Alors, il y a, dans ce livre, il y a le refus de l'éditrice, mais il y a aussi...
Mon refus de ce refus.
Et il y a aussi l'âge qui, tout d'un coup, 55 ans, ça pose problème.
Oui, il y a le refus.
Ça pose problème. Alors là, il y a...
Je cite la phrase de Stendhal, « Bonjour lunettes, adieu fillette
». Sur la cinquantaine. Adieu fillette. Et puis, il y a Rimbaud. Rimbaud, bon, qui n'a pas atteint cet âge-là, qui est mort quand même relativement jeune.
Oui, on est gros, inutile, voilà. Vieux, et on est plus vieux que tous les gens qu'on a admirés, donc ça n'a pas du tout...
Rimbaud n'a pas connu ça.
Ouais.
Moi, j'ai un souvenir sur ceci, là. C'est de Jean Rousselot, qui, à 90 ans, me disait, est-ce que tu te rends compte que moi, je suis obligé de me renouveler, alors que Cadou, lui, a 33 ans, c'était fini, et sa gloire continue. Voilà. Alors, c'était terrible, ces phrases. Et il était sincère quand il disait ça. Il avait une espèce de hargne contre Cadou, qu'il avait adoré, qu'il adorait toujours, hein, mais en disant, mais lui, il a eu la chance, entre guillemets, de pouvoir arrêter tout à 33 ans.
Oui, là, voilà. J'ai pas de hargne là-dessus, j'en ai pour d'autres choses. J'en ai pas, je comprends très bien ce que dit le cher Rousselot, je pense toujours à son dialogue avec Reverdy.
C'est une très très
beau. Oui, c'est si beau.
Très beau dialogue. C'est Rougerie qui avait.
C'est des poètes entre eux, ça nous change. Oui. Les conneries qu'on entend toute la journée, quand même. Oui. Pardon pour la trivialité, mais c'est fatigant. Donc, j'ai pas de haine là-dessus, mais une chose qui m'habite aussi, mélancolie très profonde, voilà. Ce serait plutôt souchonien, tu vois. C'est vraiment extrêmement, un sentiment très mélancolique de soi. Du coup, je crois que j'ai réussi à faire un livre, mais il le fallait parce qu'à un moment, tu sais même plus à quoi tu sers, on se souvient plus de ce que tu as fait. C'est pas toi qui es dans le baguette de l'ambiway, comme dirait Souchon. Hein. Il y a toutes ces choses qui ne devaient pas arriver. L'âge, le poids, l'exitude, le fait d'être l'ex de tout. Je suis là que je ne me suis jamais trouvé beau, mais enfin quand même, c'était mieux il y a 20 ans, non? Enfin, oui. Donc c'est tous ces vertiges-là qui arrivent ensemble. Il y avait le côté, je vous dis, compris que tu perds un éditeur un peu connu, donc les gens qui ne t'aiment pas sont ravis, parce qu'on n'entendra plus parler de toi, ce qui a failli quand même arriver. Et puis, tu ne sais pas comment te reprendre, qu'est-ce que c'est que cette... C'est la question de la reprise. La reprise interminable. Et en même temps, c'est comme la vie, il faut interminablement se reprendre.
Et donc, pour se reprendre, il faut faire un journal pour ne pas faire une dépression.
Voilà, alors là, dans ce cas-là, là, c'était vraiment le point d'appui, je vois bien, d'ailleurs, là, j'en fais pas du tout, y compris que là, la période est trop dévastatrice, je pense, mais pour même la dater. Mais là, oui, on voit vraiment ce que c'est que se donner un cadre. Soudain, il faut un cadre, et le cadre de salut, je ne savais même pas que ça ferait un livre, mais je me suis mis à écrire chaque jour après cette... 8 jours après la démission de la table ronde, si j'ose dire, je sortais de la tapisserie, n'importe comment ça s'appelle, un pressing. C'est un nom français, le pressing. Comment ça s'appelle pour le linge? C'est pas le pressing, c'est bon. Bref. Ah non, il n'y a pas boulangerie non plus. Enfin, quelqu'un retrouvera bien. Je sortais avec ma chemise, c'est beau, et je me suis...
Blanchisserie.
Blanchisserie, merci. La blanchisserie. Hein, voilà, j'ai voulu redevenir un peu blanc. J'ai dit, ils ne m'auront pas comme ça. Et je ne suis plus rien. Et je ferai... Il n'y a plus d'éditeur, il n'y a plus rien. Je vais écrire tous les jours et je le mettrai sur Facebook. Ce sera ça l'éditeur. Et j'ai fait un an de premier jet, ce qui est un des noyaux du livre, sur Facebook. Ce que Didier Goupil appelle une entreprise complètement folle. Faire le journal sur Facebook.
Ah oui.
Mais vraiment par désespoir éditorial.
Ah oui, enfin,
Et avec un effet d'enfance, ils ne m'auront pas comme ça.
Oui.
Et ils ne m'auront pas comme ça.
Alors, moi, je ne connais pas du tout, je ne suis jamais allé.
Vous ne connaissez pas votre
bonheur. mais par contre...
C'est un endroit qui ressemble tellement au monde, Facebook, que c'est horrible.
Oui. Par contre, le volume du livre, d'avoir entre les mains, etc., je pense que ça confère quand même d'abord une autre solennité.
Oui, bien entendu. Ah bah oui, tout à fait.
Bon.
Je vous dis comment est né le journal et comment il a fait cadre. Ça a été le premier cadre. Et vraiment, c'est un cadre pour pas tomber. Là, c'est vraiment vrai. À un moment, un dispositif.
À ce point.
Ah oui, quand vous me demandez, c'est ça que je vous dis. Là, j'en tiens plus, par exemple. Ça veut dire que je me tiens à peu près debout. Là, vraiment, ça tenait plus debout. Et ça a été le premier dispositif pour redonner sens. Y compris, comme je vous disais, pour moi, une fois qu'on est devenu écrivain, ce qu'on écrit finit par faire un livre. Le fait que je voyais plus comment ça ferait un livre. Ça a déplacé l'endroit l'endroit de la monstration.
Ça a déplacé sur
cette chose qui existe aujourd'hui, qui est un réseau social. D'accord. Voilà. Mais après, il y a eu tout le travail, refaire un livre avec ce journal. Évidemment le résultat d'un retravail, y compris en cassant complètement ce journal et en réécrivant dessus. Hein. Le livre, c'est vraiment quand je deviens Monsieur Lec, je vous dis, c'est le soir de Delon que je comprends. Je vois Delon dire on est d'autre temps, je dis. Yes, it is. Le souvenir de ce film du clan des Siciliens me revient, et puis comme je suis un écrivain comme ça, que je joigne des morceaux du passé et du présent, comme dirait Proust, et donc j'ai retrouvé ma famille. C'était les Ventura, les Gabin, les Delon, qui évidemment étaient les figures masculines à quoi s'accrochait ce pauvre gamin des années 60 à Nevers, sans père, qui se sentait protégé par ces voyous flics, quoi. Ces marginaux, enfin, ces créatures, soit flics, soit voyous, hein. Gabin, et puis le fils sidérant de Gabin Delon, quoi, la beauté sidérante.
Le membre.
voilà, qui disait Monsieur Gabin.
Alors, si on revient un peu en arrière, donc élevé par la mère, mais avec ce désir absolu et qui ne s'arrêtera jamais de plaire à la mère. Et donc, pour plaire à la mère, il faut bien travailler à l'école.
Oui, d'abord.
Et donc, ce bien travailler à l'école finit par...
jusqu'à l'école normale supérieure. Je me suis arrêté quand il n'y avait plus rien. Voilà. J'ai raté un truc. Ouais. Je pense que CNRS, c'était une divinité inaccessible. Alors, CNRS, ça, c'est... j'ai pas tenté. Mais je pense que ça aurait complété. Ça aurait été son comblement, s'il y en avait eu un.
Dans la pose du fils... Et à ce moment-là, des lectures, vous en parliez tout à l'heure à la radio, etc., puis des lectures par les grands comédiens de cette époque-là.
Oui, tout commençait très bien. Benavides, Bonafé.
Voilà, Jacques Bonafé.
Et oui.
Jacques Bonafé qui est venu au théâtre TNT lire du Ludovic Janvier, je me souviens.
Oui, à un moment, ils me lisaient tous les deux. Voilà. C'était...
Donc, Bonafé qui est une voix corps. Dites une voix geste, un athlète de la profération.
Oui, c'est ça, des comédiens, des grands comédiens, c'est ça.
Éric. Et qui disait à Yves Charnay,
tu as toujours été trop émotif.
Ça, c'est une fois où on se revoit pendant l'écriture de ce journal, ouais. Alors qu'il est passé à d'autres écrivains. Qui se... voilà. J'ai pris des choses lex, je suis lex de Bonafé et de Bonaïdès aussi, poétiquement parlant. Et il avait dit cette phrase devant mon fils. Ben, les gens t'expliquent qui tu es. Bon, ah bon, très bien. Tu as toujours été trop émotif. Ah bon. Je ne sais pas. L'est-on jamais assez? L'est-on oui, jamais voilà, assez oui.
Où se situe...
Et moi, je ne suis pas comédien, je suis poète, oui. Donc chacun son... Oui. Alors, un comédien, il ne faut pas qu'il soit trop émotif, vous direz Diderot, sinon il foire son truc.
Le paradoxe, voilà. Du comédien.
Et il faut que de braves mineurs comme oui. Nous aillent au fond de leurs émotions pour qu'ils aient quelque chose à dire. C'est quand même ce qui m'arrive de rappeler, puisqu'on vit dans le temps du privilège du comédien, et Dieu sait que s'il y a des gens qui aiment les comédiens, et les immenses... J'ai déjà cité trois fois Delangue, Gabin, Depardieu, enfin, vous savez comme je les aime, comme j'aime les voir. Mais enfin, il faut bien que quelqu'un leur écrive un texte un jour. Hein. Voilà. Alors ça, c'est nous.
Alors, on va... Ce livre...
Mais comme dirait Georges Lamas, à un moment, les gens croyaient que les paroles aussi étaient d'Alice Donna.
Ce livre, c'est aussi un autoportrait permanent.
Oui, hein,
autoportrait permanent.
Je ne vais pas faire autre chose.
Vous parlez de l'autoportrait, par exemple, de Van Gogh aussi, qui dit, qui explique qu'il n'avait pas de modèle.
Ah, oui.
Et que donc, eh bien, il a un bon miroir.
Oui, voilà.
Il a un bon miroir. Bon.
Ils disent tout ça, les très grands. Bacon dit ça avec les tragédies. C'est quand son compagnon meurt, il dit tout le monde est mort, il n'y a plus que moi, alors c'est moi que je peins. c'est comme ça.
Ouais. Mais ce livre, c'est ça aussi. C'est-à-dire,
oui, oui.
C'est véritablement, on a l'impression que comme Van Gogh dit, bon, j'ai pas de modèle, je vais écrire là.
J'ai pas trop modèle, j'ai acheté un miroir dans lequel j'entrevois un peu quelque chose.
Mais en parlant de vous, en définitive, vous parlez de tout le monde. C'est ça.
Si ça marche, on est chacun à la forme entière de les mêmes conditions.
C'est ça. Hein.
Ce serait Montaigne.
Il y a quelque chose d'universel. Sinon,
plus tu vas dans le singulier, plus tu permets aux autres de se comprendre. C'est un...
ouais.
Moi, ça a marché comme moi. Ça a marché pour moi comme lecteur. Chaque fois que je me suis compris, c'est par un éclair venu de la lecture d'un autre. Alors ces autres sont quand même assez souvent des autoportraitistes, je dois dire. C'est quand même souvent Nerval, Léris, Rousseau, Dubrovski qui m'ont aidé à y comprendre quelque chose. Mais cette compréhension, quand tu retravailles pour toi-même, tu tentes de la rejouer pour les autres. Alors si pour vous ça fonctionne, c'est déjà bien. C'est voilà, en creusant sa singularité, c'est en creusant la tête d'épingle, le petit timbre-poste, sa singularité, que tu as une chance de trouver quelque chose d'universel là-dedans. Par le style, comme vous disiez. C'est compliqué pour que ça marche. Hein.
Mais c'est aussi ce qui démontre la réussite de l'exercice. C'est l'intérêt que peut en avoir l'autre. C'est ça, à mon avis.
Oui, s'il y a littérature, c'est ça.
Voilà.
Sinon, pour vous répondre au tout début de votre introduction, notamment, j'aimerais qu'il y ait beaucoup de Christian Saint-Paul dans le monde, puisque vous comprenez, non seulement vous comprenez ce que je fais, mais vous comprenez avec bienveillance. Je peux vous dire que ces deux qualités sont rarement...
C'est pas la bienveillance. Hein.
Non, mais si, vous êtes plein de bienveillance.
Le plaisir oui. D'abord de reconnaître oui. Tout un tas de vérités, entre guillemets, c'est-à-dire de faits, est déjà éprouvé par moi, que je retrouve totalement dans le livre. C'est qu'en lisant ça, je me retrouve également.
Mais je vous en remercie beaucoup, mais ce que je voulais juste vous dire...
Et dans beaucoup de réflexions également qui dépassent, parce qu'il y a des transgressions. Et dans les transgressions, je me retrouve aussi totalement. C'est-à-dire, je comprends parfaitement ce que vous voulez dire.
Ah donc, que vous en remerciez. Et je voulais juste faire une petite précision quand vous disiez, au tout début de cette introduction magnifique... c'est ce que moi j'appelle l'autobiographie sans fin. J'ai pas du tout su que ce serait ça quand j'ai commencé. Maintenant je sais que c'est ça.
Oui.
Hein comme dirait Quignard, dernier royaume, je mourrai dans cette forme. Alors moi je mourrai d'autant plus dans celle-là que je n'en ai pas d'autres, que je travaille sans fin. Et chaque livre est quand même différent par son façonnage, son facettage, et l'angle qu'il prend. Mais je sais, donc je suis très touché quand vous dites on lit ça de livre en livre, c'est une comédie intime, c'est un Antoine Doinel, c'est sans fin. Oui. C'est l'autobiographie sans fin, donc chaque livre... est un chapitre. Mais au fond, ça n'en fera qu'un. Oui. Et qu'il faudrait d'ailleurs, des fois je cherche un titre générique pour ça et j'ai trouvé ou tentative avec un Y ou récidive avec un Y, vous voyez. Mais pour subsumer tout ça, ce serait ça. De Proche du Fils à Chute, y compris que ces livres peuvent s'auto-citer, c'est-à-dire, comme vous dites, Chute est écrit en rapport avec Proche du Fils, y compris qu'est-ce qui se passe 30 ans après, un premier livre qui a été considéré comme important, puis qu'on n'est plus rien, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire. Mais j'espère aussi, comme dirait Baudelaire, qu'on peut prendre le serpent par la tête ou la queue, par n'importe quel bout, comme dit Baudelaire de Mon cœur mis à nu, qu'on puisse le prendre par n'importe quel bout. Je pense et j'espère qu'un lecteur peut rentrer à peu près par n'importe quel bout, même s'il y a des grandes balises, et qu'évidemment, Proche du Fils, La Tristesse ou Chute, sont des espèces de points de repère dans cette histoire. D'ailleurs, ça fait le paysage. Proche du Fils, La Tristesse durera toujours. Chute. Voilà. Et depuis, on n'a pas cessé de tomber. Bon, puis c'est la chute de cette mer aussi, évidemment. Je ne sais pas encore jusqu'où ça va nous amener. C'est la première fois que je fais une mission avec vous alors qu'elle n'est plus là. Mais il est quand même très très clair là que c'est en train de tomber.
Oui, c'était le
déclic. C'est en train de tomber. Voilà.
Alors, on va faire cet autoportrait. Vous dites, j'étais fait pour vivre parmi les types de 1830, le clan des romantiques.
Oui, Guérin, la petite chambre de Guérin. Moi,
on retrouve.
C'est la petite chambre de Guérin, mais parce que c'est ma mère qui était une femme des années 30, élevée de façon archaïque, qui croyait aux livres. Dans un monde, je vous rappelle, il n'y avait pas un ordinateur, à peine un téléphone à cadran et une chaîne, donc le livre était vraiment d'une présence. Quelques livres suffisaient. Et ces livres étaient des vieilles bibliothèques, et ces bibliothèques étaient les arrière-remparts de la mer. C'était, voilà. Au fond, regardez, là, j'ai pensé, je fais court là-dessus, je ne sais plus si c'est le centenaire de la mort de Proust. Vous pensez qu'il n'y a que 100 ans qui séparent, c'est presque rien. Donc quand j'étais petit en 60, il est mort en 22, il y avait 40 ans d'écart seulement. Donc, vous voyez, Proust était le grand-père. Enfin, et donc, juste avant, l'arrière-grand-père, c'est les Guérin. 1830. Ma mère est née en 30, au fond. 1830. Je me rends compte en vous parlant. C'est 100 ans avant, c'est deux générations. C'est ça quand j'ai petite chance. Je rôde toujours dans ces cuisines, ces espaces-là, une part de moi. Et en tout cas, la première imaginaire de l'écriture a été celui-là. Vous savez, ces gros livres chics reliés, là, que les bourgeois avaient, pas nous.
Alors, il y a aussi.
Les bourgeois, c'est mal.
En lisant Charnay, j'ai retrouvé Pessoa. Et j'étais content de voir que vous le disiez vous-même. D'écrire son psychisme le plus complètement possible à la manière de Pessoa.
Bah, c'est une phrase de lui, quoi.
Voilà. Oui, c'est ça.
Quand l'autre t'éclaire, quand une phrase comme ça te tombe
dessus. C'est la même démarche.
Oui, dans ta misère, d'écrire son psychisme, tu dis, ben oui, c'est ça que j'aurais fait. Artaud, c'est ça qui... Et puis quand ça va mal, c'est ça qu'on fait, on décrit son psychisme.
Et je crois qu'il a été quand même dans une situation similaire à la vôtre, hein. C'est-à-dire, il a d'une façon aussi, il a été abandonné. Pessoa, quand il s'est retrouvé à Lisbonne, quand même assez confié à la famille comme ça, il a eu ce sentiment d'abandon de la mère.
D'être personne, etc. Et de mettre tous les doubles dans la malle.
Ça
fait ça pour nous tous, pour toujours.
C'est ça,
quoi. C'est ça. On est personne et on va, et de temps en temps, on descend au café-tabac. Et sinon, la malle est pleine de doubles, la malle est pleine de legs, de carnets. Donc là, j'en ai mis quelques-uns, mais il y en a d'autres. Hein.
Ah, oui.
Puis je raconte tous les autres noms qu'on pouvait donner. L'exomile, monsieur l'exomile, monsieur...
Ah. Voilà. On va, si vous voulez bien, je vais vous demander de lire l'autoportrait de Nogre, page 65, vu le temps qui est passé vite.
Mais parce que j'ai trop parlé, d'habitude.
Non, pas du tout.
Autoportrait d'un Nogre. Ah ben, je vous remercie.
65.
C'est ce que je vous disais, c'était mieux avant. Autoportrait d'un Nogre. Je me regarde grossir dans la glace de mes vêtements d'hiver. C'est de la graisse, à la fin, le silence. Je ne me rappelle plus dans quelle chanson le type écoutait pousser ses cheveux. Quel album de Brel. Comme il est noir, ce soir, le charbon de ta mémoire. Tu n'en finis pas de la remanier, la matière de tes carnets. C'est comme un peu de terre, les mots entre tes mains. C'est toujours à repétrir le sale pétrin des humains. C'est ton meilleur rôle depuis longtemps, monsieur Lex. Je suis devenu ce dévoreur désœuvré qui tue le temps en remuant de vieux gravats dans une cave, en laissant retomber doucement la poussière des phrases courtes. Nul n'est plus mélancolique que les ogres. Je vais continuer de rouler ma boule, Sisyphe boulimique. On va faire un petit hommage à Claude. Sisyphe boulimique. Tu n'auras aimé que des types grandeur nature. Orson Welles, Elvis Presley, Marlon Brando, Gérard Depardieu. Personne ne sait comme c'est pesant, à la longue, de n'être personne.
On disait tout à l'heure.
Yes.
Et je voudrais entendre également page 71.
Il faut dire à nos auditeurs que ce n'est pas préparé, je découvre ce que
la vous... troisième mi-temps.
Voilà, je dis juste que je découvre, on ne s'est rien dit avant. C'est vrai. Alors, page 71. Ah oui, d'accord. C'est autre chose. La troisième mi-temps. J'avais oublié cette vieille enveloppe à quatre, jaunie par le temps. Depuis combien d'années m'attend-elle sous des journaux poussiéreux, d'anciens agendas, des manuscrits gribouillés. Retour aux sources, retour au soi. Ça me revient, tout d'un coup, d'un seul coup. C'est la dernière fois que je l'ai vu, Châtelet-Léal, la terrasse du Père tranquille. C'est lui qui avait choisi le lieu de notre rendez-vous, le nom de la brasserie. Ça ne s'invente pas, la vie. Ça n'a pas d'autre définition, votre fameuse auto-fiction. Je vérifie dans Prose du Fils... L'année exacte, c'est bien ça, 1990. C'était un jour de printemps, voilà 27 ans, à Paris, France. J'ai eu l'agrégation l'été d'avant, l'agrégation de lettres modernes. J'ai rempli ma part du contrat. Bâtard couvert de diplômes, séducteur couvert de femmes. Je vais bientôt soutenir mon DEA, la critique d'art selon Baudelaire. Le barbu aime m'entendre raconter tout ce barnum, ma réussite scolaire, mes exploits de génial gorille. Je crois que ça a les pattes, Derrida, Nougaro, De Guy, que ma jeunesse trafique avec des caïds de ce calibre. Nos conversations, notre correspondance, nos rencontres. Mon impossible père est en face de moi. Dans la lumière de fin avril, début mai, on doit être vers Pâques. Avant les vacances, juste après, il est de passage, à Paris. Il aura toujours été de passage, faiseur d'éclipses. Il aura surtout brillé par son absence, ses façons de régner sur mon enfance aux yeux crevés. J'essaie de le regarder, sa barbe blanche, ses grosses lunettes, sa canne noire. Il n'y aura pas eu 20 rendez-vous dans nos vies, pas 40. Il me dit que cette fois, c'est la bonne. Ulysse, au bord d'Ithaque. Oui, je crois qu'on peut prendre par n'importe quel bout. Si on a tout lu, ce que personne ne fait par vous. Ça, c'est pas mal sédimenté, cette histoire. Mais on peut aussi rentrer par là. Oui. Ça pourrait être le premier texte. Enfin, c'est l'idée de Quignard, tout devrait être une attaque, quoi. On peut très bien rentrer, ce sera un début de roman, s'il peut face à son père dans un café, qui lui dit que c'est la troisième mi-temps.
Oui, absolument. Et, voilà.
Ça, c'est la vie qui est un roman.
Alors, le style, je crois qu'il nous reste quand même 10 minutes. Le style de l'ensemble de ce livre, comme de tous les autres, hein, c'est l'auto-fiction comme une autre formule de la poésie.
Oui, ça j'y tiens beaucoup.
Voilà. Et vous reliez ça à Dombrowski.
D'abord, le patron, c'est Dombrowski. Voilà. Cette idée-là m'est venue... un ami qui s'appelle Philippe Med, qui est un grand critique américain, français d'équipe aux États-Unis, à Philadelphie, et c'est lui qui a écrit un livre sur Michel Deris, où il dit que l'autobiographie Michel Deris est une formule du poème. Ça fait 25 ans que j'ai lu ça. J'ai trouvé ça tellement juste que j'ai essayé de l'appliquer à ma petite entreprise. Donc, évidemment, les poètes ne veulent rien savoir de ça, le champ poétique non plus, et tout ça en plus. Tout le monde a oublié Rousseau, Nerval, qui évidemment promenade des souvenirs, c'est de la poésie. C'est de la poésie. je suis content chaque fois que je vous vois, parce que l'émission s'appelle Les Poètes, que vous êtes un poète, et que vous me dites que pour vous, ce sont bien des poèmes. Donc, quand on parle du roman de la vie, moi, c'est le poème de ma vie. Voilà, l'autofiction est le poème de ma vie. J'essaie d'écrire le poème de ma vie, en quoi il y a conjonction, comme dirait De Guy, avec entre la vie et le poème. Voilà. Et j'essaie d'écrire lyriquement le poème de cette infortune, comme dirait Rimbaud. Cette infortune continuée, ou cette idée avec l'inhabileté fatale et tout ça, puisque je suis plutôt dans cette catégorie. Je ne suis pas dans les triomphants, même si je regarde. Même si, et du coup, je les regarde de tous mes yeux dans leur voiture chez Henri Verneuil quand c'est Delon ou quand c'est Visconti et que c'est le Guépard. Mais,
voilà. Il y a eu un poète que vous aimez beaucoup, qui est Jam Sacré, oui. Et qui est venu à Toulouse, qui a présenté une conférence le 18 novembre. Là.
Oui, nous étions ensemble, et vous l'avez reçu, bien sûr.
Et Jam Sacré, c'est la poésie de l'expérience. C'est-à-dire que,
c'est notre grand-père, voilà, comme je dis sans lui, c'est notre grand-père.
Donc, il ne peut pas y avoir d'écrit chez lui qui ne ressorte d'une expérience, c'est-à-dire d'un vécu.
Il a sa façon tout à fait singulière de faire ça, mais c'est une figure majeure pour moi parce que j'ai découvert plus tard que les autres, hein, je l'ai rencontré bien plus tard, mais plus ça va, plus je lis. J'approfondis beaucoup ma lecture de l'homme sacré, c'est de plus en plus puissant, je trouve. Non, parce qu'il fait bien sûr qu'il est très puissant, mais la perception que j'en ai, et sans lui, personne n'aurait tenu cette position. Vous voyez, au moment où il n'y avait rien du côté de l'écriture lyrique de soi, avec une singularité très très particulière, il nous faudra toute une émission pour en parler, je veux bien venir un jour parler du Jam Sacré ici, avec grande... Oui. Mais ce serait une belle idée, tiens. Mais il a inventé une position qui n'appartient qu'à lui, nous dire « donne-moi ton enfance », la solitude au restaurant. Et puis bon, c'est son entreprise, cette entreprise extraordinaire, depuis 10-15 ans, Portrait du père en travers du temps, où chaque fois qu'une circonstance lui rappelle son père, il écrit un poème pour faire cette espèce de livre improbable et interminable. Voilà, c'est évidemment en très grande consonance avec des expériences pareilles. Et puis bon, c'est un grand poète.
Le livre dont vous parlez, je rappelle tout de suite que... il est venu en parler et que cette émission est disponible également sur le site Les Poètes.
Sur votre sans, site magnifique.
Sans séparation et sans accent, Les Poètes, un point site.
Votre caverne d'Ali Baba.
Et puis, il y a Cendrars que vous citez, hein, Cendrars qui dit « Je ne trempe pas ma plume dans un encrier, mais dans la vie. »
Voilà.
La vie. Voilà. Et vous...
Alors, si je suis de ce pays, voilà. Je suis de ce pays-là.
Voilà. Voilà. Et puis la vie, c'est une corrida. Est-ce que on peut, vu le temps,
ah oui,
nous est maintenant qui va nous manquer, est-ce qu'on peut finir sur ça?
Mais bien sûr, donnez-moi la page, Christian.
Non, mais la vie est une corrida.
Ah pardon, je vais exprès que vous lisiez.
La vie est une corrida.
Oh oui. Alors, car en ce moment, la mise à mort n'y va pas de main morte là.
Bon. Donc il y a l'aficionado. Hein,
La vie est une corrida parce que la corrida c'est une métaphore de la cruauté de la vie. C'est une métaphore. La vie est un cercle rouge, puisqu'on a cette émission qu'on se signe dedans, un cercle rouge dont on ne sort pas, hein, et on y affronte d'assez terribles taureaux. Alors il faut essayer de ralentir leur charge avec grâce, paraît-il. Je voudrais bien vous y voir.
Et il y a une passion là de la...
Oui, j'ai eu ça. Oui.
Elle est arrivée quand?
C'est 98, c'est quand j'aurai fini de réécrire mon livre sur Bautista, on le saura mieux. J'accompagnais des élèves en Andalousie, je viendrai vous voir pour ce livre, et j'ai vu une corrida par hasard à Séville. Mais c'est un peu comme un type qui entendra un peu de musique locale par hasard chez Wagner, oui. Qui découvre.
Ça a été
Oui, je savais pas ce que c'était, on nous a dit.
Ça a été une révélation.
Ah oui, j'ai rien compris, mais c'était une révélation. J'ai su que j'étais là. Oui. Et ceux que j'étais là sans aucune initiation, je suis dans la Nièvre, personne ne savait rien. Je connaissais la chanson Les Taureaux de Brel et les Machettes d'Interville, c'est tout ce que je pense je savais. Et j'ai vu donc par le plus grand des hasards objectifs cette corrida, et c'est ce que on appelle un fait précipice, c'est-à-dire quelques élèves avec qui j'étais, il y a ceux qui n'aiment pas, il y a ceux qui disent c'est pas mal, ceux qui disent on verrait bien une autre, puis il y a un fou qui dit en 1830 j'étais là quand Goya venait voir ça, quoi. Hein? Quand il était très malheureux, Goya, il écrivait à cet ami, Viens dimanche, on ira voir les taureaux. Je passe une semaine de merde, mais dimanche, on va aller voir les taureaux. Voilà. Là, on peut même plus, tout le monde est masqué, c'est interdit. Bon.
Vous voyez les gravures de ah, Goya, ben sur oui. Les. Tu sais, il y a des choses extraordinaires.
Extraordinaires.
J'ai eu la chance de voir ça à Almeria. Il y avait de véritables fous dans les arènes à ce moment-là.
Absolument, absolument.
De fous liés.
Oui, fous liés. Ils sont des pieds liés. Qui étaient les pieds liés qui sautaient par le taureau.
Oui, des choses extraordinaires.
Des extravagantes avant les peintures noires.
Ça, donc la corrida, c'est la métaphore de la vie.
Oui,
c'est une affaire qui finit mal quand même.
Et ben, oui, c'est bien pour ça que c'est la métaphore. Il n'y a pas de sortie. C'est ce qui m'a fasciné quand j'ai vu la première corrida. La première corrida, ce qui m'a fasciné, quand ils ont fermé la porte, Taureau est sorti, ça s'est fermé. Donc j'ai compris que quelque chose ou quelqu'un ne ressortirait pas vivant de là. Soit ces hommes de lumière étranges, quand t'as jamais vu de corrida, ces types en pyjama scintillant avec des chevaux, qu'est-ce qui se passe? Et puis le taureau. Il y en a qui ne sortira pas vivant, au risque de la blessure. Et comme c'est un spectacle, l'art est au risque de la blessure. Mais là, nos contemporains n'entendent plus tout ça. Puis là, maintenant, ils ne veulent plus avoir de rhume, donc là, c'est un peu la fin.
Il y a aussi.
Docteur, faites que je ne meure pas. C'est très peu taurin, oui. Un torero est un type qui sait tous les jours que la mort est au rendez-vous.
Alors, est-ce que la vie, est-ce qu'il faut avoir dans la vie cette peau de rhinocéros dont vous parlez? Avoir cette tunique de blessure.
Il faudrait pouvoir se carapacer. Elle est extraordinaire, cette phrase de Wolf. Au début, je la retrouve. La vie est une rude épreuve. C'est une peau de rhinocéros qu'il faudrait avoir, et on n'en a pas. Voilà. Et on écrit parce qu'on n'en a pas, alors on fait une peau de mots. C'est quand même une peau de mots, un livre. C'est une peau de mots. Voilà. Les rhinocéros, les taureaux, des vieux animaux. 8 ans des vieux animaux.
On pourrait parler dans les quelques secondes qui nous restent peut-être sur l'autre en moi, c'est-à-dire la multiplicité. Elle apparaît moins dans ce livre, je trouve.
Oui, ben, je sais pas, même si quand même il passe de Roger Carder à Monsieur Lex, du double d'enfance au double adulte, quoi. Hein. Voilà. Et puis entre temps, Yves fait ce qu'il peut, mais Yves est marqué de ce pluriel interminable que la mère a mis à ce prénom, Yves. J'ai compris quand même que très récemment, je me suis toujours demandé pourquoi je m'appelais Yves quand même. Puis j'ai fini par contre très récemment en parlant avec une amie qui m'a envoyé le lien du dernier documentaire qui a été fait sur Yves Montand, qui est très bien, sur Arte. Et cette amie m'a envoyé ça. Et j'ai pleuré en voyant ce documentaire. J'ai pleuré comme vous. Je peux encore pleurer à ma mère, mais là je pleurais de revoir Montand. Et je me suis dit, mais imbécile, bien sûr, elle t'a appelé Yves à cause de Montand. Finissons sur mon temps, comme dirait Proust, sur mon temps.
La mère qui était d'une inflexibilité pathologique.
Oui.
Merci Yves Charnet.
Merci Christian.
Rappelons le titre, Chute, aux éditions Tarabuste.
Aux belles éditions Tarabuste, qui accueille James Sacré.
Très beau livre, qui vous coûtera 18 euros, mais vous pouvez l'acheter pour Noël et surtout l'offrir aussi. C'est un beau cadeau.
Merci beaucoup.
A très bientôt, Yves Charnet, et merci encore.
C'est moi, Christian. Jamais vendu.